Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International Évreux pour l'avant-dernière émission du mois de décembre. Puisqu'on est aujourd'hui le combien, Mina ? On est combien aujourd'hui ?
Le 17 décembre.
C'est bien, Mina, c'est bien. Donc, on est le 17 décembre et on se retrouvera pour la toute dernière de l'année. Et oui, oui, on l'a fait quand même. Le 31 décembre, on sera aussi sur l'antenne de Principe Actif. Donc, vous pouvez nous écouter même le 31 décembre. Donc, une heure avec Amnesty International Évreux. Pour parler de quoi ? Bien, pour parler des actualités, des actualités et des combats d'Amnesty pour la défense des droits humains. Chose qu'on fait à l'antenne de Principe Actif depuis déjà pas mal d'années maintenant. Donc, avec moi pour animer l'émission ce soir, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Il y a Sabine.
Bonsoir.
Et il y a Mina.
Rebonsoir.
Qui n'avait pas oublié la date. Voilà. Donc, pour commencer l'émission, je vais vous dire quelques mots. Je pense que pas mal d'entre vous sont déjà au courant, mais bon, c'est pas inutile de répéter les choses. Quelques mots sur une campagne qui vient de s'achever au niveau des signatures adressées au public, qui s'appelle 10 jours pour signer. Campagne annuelle faite par Amnesty au niveau mondial, toutes les sections y participent, et 10 jours pour défendre 10 cas d'atteinte aux droits humains autour du 10 décembre qui est la date anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc la journée internationale pour les droits de l'homme, pour les droits humains on préfère dire à Amnesty, et donc 10 jours pour signer, 10 cas, 10 décembre, voilà. Donc la campagne s'est terminée officiellement dimanche. Mais, j'ai vérifié tout à l'heure, sur le site d'Amnesty, vous pouvez toujours aller signer les 10 pétitions qui sont en ligne. Pour les 10 cas, vous pouvez toujours les signer en ligne sur le site d'Amnesty, amnesty.fr. Donc, n'hésitez pas, elles sont proposées à la signature, au moins jusqu'à la fin du mois de décembre. Et nous, on s'est mobilisés ici, avec le groupe d'Évreux. On s'est mobilisés plusieurs fois à Saint-Nicolas. On s'est sous un temps absolument épouvantable. N'est-ce pas, Sabine ?
Oui.
Il pleuvait, il faisait froid, il y avait du vent. Voilà. Mais bon, quand on est motivé pour.
On avait des voisins pas sympas.
Quand on est motivé pour défendre les droits humains, on les défend. Donc voilà. Et donc, voilà, on a fait signer aussi la semaine suivante au restaurant, à l'entrée du restaurant administratif. À côté du. Il y a Mina qui fait un signe. T'as un souci de casque, Mina ?
Non, elle voulait savoir les voisins.
Ah, d'accord. Non, mais c'est pas. On n'est pas là pour parler de ça.
Non,
Sabine, donc,
non, on ne dira rien.
Donc, on a fait signer au restaurant administratif. Bref, on a tenu plusieurs stands pendant la semaine. Les antennes jeunes aussi se sont beaucoup mobilisées. Alors, je n'ai pas le total, mais on a le nombre de signatures et de soutien qu'on a obtenu à travers les différentes antennes jeunes et les stands d'Amnesty. Mais en local, on va dépasser largement les 4000 signatures. Donc, c'est une très bonne. C'est un très bon score.
Mais tu vas faire exploser, toi, dehors.
Voilà. Donc, c'est un peu. Mes acolytes ce soir, je vois pas comment on peut dire. Mes participantes à l'émission sont un peu distraites.
En même temps, il ne faut pas mettre Clarisse, Sabine et Mina en même temps sur une émission, tu le sais très bien.
C'est ça.
On va essayer d'énerver personne.
Mais non. Puis c'est bientôt Noël, donc c'est normal. Quoi, là. Ouais. On est déjà un peu dans l'ambiance des fêtes. Et donc, on a dépassé largement les 4000 signatures, tant mieux. Et dernière information par rapport à cette campagne, et c'est que en préparant l'émission là tout à l'heure, je suis allé voir sur les différents sites d'Amnesty, dont les communiqués sur Twitter. Et en fait, on a défendu dans les 10 personnes là, de la campagne de cette année un Égyptien qui s'appelle Ibrahim, je vais juste donner son nom, son prénom. Qui s'appelle Ibrahim, qui avait disparu depuis 7 mois, parce qu'en fait, il défend le droit au logement des populations les plus précaires en Égypte, et il avait disparu depuis 7 mois, donc on demandait sur la pétition de savoir où est-ce qu'il était, dans quelles conditions il était enfermé, puisqu'on supposait qu'il était enfermé, et qu'il soit évidemment libéré sans condition et immédiatement. On n'a pas encore obtenu sa libération, Mais samedi dernier, c'est bizarre, la campagne s'arrêtait officiellement dimanche, samedi dernier, Ibrahim est réapparu dans le bureau du procureur du Caire. Et donc, il a pu, maintenant sa famille sait où il est. Il a dit effectivement qu'il était enfermé au secret pendant plusieurs mois, qu'il a été relativement maltraité, qu'il n'a pas mangé à sa faim, mais que ça va. Voilà. Donc, premier résultat obtenu, Ibrahim est réapparu. C'est déjà...
Et il est vivant.
Il est vivant. C'est pas suffisant pour nous, mais c'est déjà un premier signe. Et il n'y a pas vraiment de hasard que ça arrive maintenant. Donc, continuons à nous mobiliser. Et oui, on obtient des choses. Voilà. Juste après, je crois qu'on avait prévu sur le conducteur qu'on a préparé que c'était Sabine qui voulait vous dire quelques mots.
Alors, un petit flash sur la répression en Irak. Il y a une jeune Iranienne paye le prix du sang le 1er octobre. Un vaste mouvement de protestation hostile au gouvernement, à la corruption et à l'influence de Téhéran s'est manifestée. En guise de réponse, les forces de sécurité des milices pro-iraniennes ont tué, selon Le Monde, du 17 novembre, 300 contestataires. Amnesty a dévoilé l'utilisation de grenades lacrymogènes de type militaire. M99, LVC 40
millimètres.
Bref, 10 fois plus puissantes que celles qui sont conventionnelles, qui ont littéralement transpercé le crâne de plusieurs manifestants, sans parvenir à éteindre ce foyer de liberté qui brûle toujours. Donc à suivre, parce que c'est pas fini.
Oui. Je viens vous parler de l'Irak. Voilà, on va passer à un pays qui n'est pas du tout loin de l'Irak, qui est l'Iran. Il y a un rapport d'Amnesty qui est paru aujourd'hui, que j'ai regardé rapidement, mais comme il est pour l'instant publié qu'en anglais, on va attendre qu'il soit traduit. Mais qui, par rapport à la répression en Iran, dont on vous a déjà peut-être parlé dans nos émissions, en tout cas vous en avez entendu parler dans les émissions sur les grands médias. Et officiellement, les autorités, parce qu'il y a des manifestations en Iran depuis le mois de novembre, manifestations qui ont été causées au départ par une augmentation très brutale du prix de l'essence là-bas, mais pas que, d'ailleurs aussi par rapport à la contestation de l'autoritarisme et du manque de démocratie très profond du régime iranien. Officiellement, les autorités iraniennes reconnaissent la mort de 5 personnes. D'après les informations obtenues par Amnesty et des recoupements qui ont été faits, on estime qu'il y a plus de 300 personnes qui ont été tuées lors des manifestations, excusez-moi, et qui ont été tués, effectivement, il n'y a pas d'autre terme, parce que la plupart ont été visés à la tête, au cœur, dans la poitrine, etc., etc., par les policiers, et avec des tirs à balles réelles. Donc, c'est effectivement bien une volonté de tuer les gens. Donc ça, évidemment, ça motive l'apparition du rapport avec pas mal d'informations. Et je vais simplement vous lire le communiqué qui est déjà paru sur le site, est assez long, mais simplement vous lire la réponse d'un des policiers qui était dans les informations obtenues par Amnesty, la réponse d'un des policiers en Iran qui a répondu à des parents qui s'inquiétaient parce que leurs enfants avaient disparu lors de ces manifestations. Et il leur a répondu la phrase suivante: nous pouvons faire tout ce que nous voulons de vos enfants, nous pouvons les enfermer aussi longtemps que nous le souhaitons, même pendant 10 ans, nous les exécuterons et vous ne pourrez rien y faire. Voilà. Donc voilà ce que c'est que la réalité de l'Iran à l'heure actuelle. Donc là aussi, il faut continuer à se mobiliser et continuer à agir avec Amnesty pour la défense des droits humains. Bon, si vous êtes angliciste, allez lire ce rapport. Bon, il paraîtra dans quelques temps en français, mais qui fait le point par rapport à ce qui se passe depuis des mois sur la répression en Iran et dont on ne parle pas suffisamment. Voilà. Qui peut me dire, parce que je n'ai pas le conducteur, si j'ai le conducteur sous les yeux, ce mec qui dit une bêtise.
On va passer à Claire Lys.
Voilà, c'est Claire Lys, c'est bien ce qui me semblait. C'est Claire Lys qui doit vous parler des réfugiés, si mon petit doigt ne m'a pas dit de bêtises.
Oui, alors j'ai choisi de... plusieurs fois à peu près à cette période de l'année. Je vous parle de ce qui se passe dans les îles grecques, de la mer Égée, et notamment sur l'île de Lesbos, où il y a des réfugiés qui s'entassent. Qui s'entassent dans des conditions dramatiques, et dramatiques aussi parce que viennent la saison d'hiver, et leurs conditions de vie sont terribles. Ce qui devient de pire en pire, c'est qu'il y a énormément d'enfants et de mineurs non accompagnés qui sont aussi parmi ces réfugiés.
Et là, il y a eu un cri d'alerte du président de l'ONG Médecins Sans Frontières qui déclare, enfin qui annonce que des enfants réfugiés tentent de se suicider pour échapper aux conditions de vie des camps dans ces îles grecques. Donc c'est la première fois qu'on entend ça et c'est vraiment dramatique. Donc la situation des demandeurs d'asile coincés sur les îles grecques est tragique, inhumaine, constate le docteur Christos Christou, le président international de Médecins Sans Frontières. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça grésille ? Bon, alors. La surpopulation dans les camps de Moria à Lesbos, qui accueille 9000 réfugiés pour une capacité maximale de 3100 personnes, entraîne des problèmes de santé pour les migrants, notamment des problèmes de santé mentale chez les enfants. Ça commence avec des enfants qui sont agressifs, par exemple, et qui ne l'étaient pas, mais qui le deviennent. Des enfants qui ne veulent plus manger, qui ne veulent plus jouer, qui recommencent à faire pipi au lit à 10 ans, 12 ans, 14 ans. Des enfants qui se font mal, qui se mutilent. Médecins Sans Frontières constate d'ailleurs chaque semaine des cas d'enfants qui ont tenté de se suicider. Les conditions d'hygiène sont rudimentaires. Il y a une toilette pour 65 personnes, une douche pour 90 personnes. Et pour être très clair, personne ne devrait vivre dans ces conditions, assène-t-elle. Mais c'est cela qui arrive aux gens à la frontière de l'Europe. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, ce n'est pas une épidémie, c'est un choix politique de l'Union européenne qui oblige les gens à vivre dans ces circonstances. Et ça la met terriblement en colère. Une politique grecque d'asile qui est de plus en plus restrictive. La Grèce est redevenue, en 2009, la principale porte d'entrée des demandeurs d'asile venant par la Turquie voisine à destination de l'Europe. Plus de 37 000 personnes s'entassent actuellement dans les camps insalubres à Lesbos et sur les quatre autres îles de la mer Égée, alors que leur capacité n'est que d'environ 6 300 personnes. Le gouvernement grec a récemment annoncé le remplacement des camps sur ces îles par des structures fermées, d'une plus grande capacité, mais toujours pas suffisante pour faire face au nombre de demandeurs d'asile qui affluent quotidiennement, a expliqué à l'AFP le maire de Samos, Georgios Tsantzos. Le gouvernement prévoit que notre île pourra accueillir 5000 migrants, mais la capacité du nouveau camp n'est prévue que pour 1800 personnes, a déploré le maire de Samos. Plusieurs milliers de mineurs non accompagnés sont à Lesbos aujourd'hui dans des situations problématiques d'insécurité. Mais malheureusement, cette reconnaissance, une prise de conscience est nécessaire. Il faut des évacuations, des mesures protectives. Mais malheureusement, cette reconnaissance s'accompagne pas d'une remise en question de la politique en place dans les îles grecques, reproche une autre correspondante de Médecins Sans Frontières. Voilà, je voulais faire part de ça parce qu'il y a eu un cri d'alerte qui est passé dans la presse. Et moi, c'est la première fois que j'entends parler d'autant d'enfants qui tentent de se suicider face à des mesures qui sont décidées par des gouvernements.
Oui.
Voilà. Et ça relance la politique d'accueil de l'Europe par rapport aux migrants. Tout à l'heure, je vous reparlerai de la politique d'accueil de la France en faveur des réfugiés.
Oui. Juste un petit commentaire par rapport à ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est une situation encore plus dramatique que ce qu'on pouvait imaginer. Et on rappelle que c'est du ressort des États d'assurer l'hébergement dans des conditions décentes des populations en situation de réfugiés ou de migrants. Donc ça, ce sont les textes internationaux, encore une fois, qu'aucun pays ne respecte bien, mais qu'aucun pays n'a le droit normalement de ne pas respecter. Donc c'est toujours utile de le répéter. Et ça me fait penser aussi à un petit lien, on parlait des 10 jours pour signer. On rappelle que dans les 10 pétitions qui sont proposées, il y a 2 jeunes qui sont actuellement en attente d'être poursuivis en Grèce pour l'inculpation infamante de trafic d'êtres humains et qui n'ont fait que donner de leur temps et de leur énergie pour défendre des réfugiés dans des camps en Grèce. Voilà. Donc, c'est le monde à l'envers. On poursuit les gens qui aident et les États ne font pas ce qu'ils devraient faire au niveau de la défense des réfugiés.
Et voilà. On ne protège pas les mineurs.
Et on ne protège pas les mineurs, tout à fait.
Et il n'y a pas qu'en Grèce.
Et il n'y a pas qu'en Grèce.
Non, vous avez redevenir vilaine.
Oui. Juste aussi une autre information qui m'a traversé l'esprit pendant qu'on parlait des rubriques précédentes. On a parlé de la situation et du rapport qui est paru sur la situation en Iran. On rappelle aussi, il faut toujours faire le lien avec ce qu'on fait, on rappelle aussi que ces pétitions 10 jours pour signer, que vous pouvez toujours signer en ligne, il y a une cas d'une jeune avocate iranienne qui en fait a été condamnée à 17 ans de prison parce qu'elle a retiré l'année dernière son voile dans le métro à Téhéran et qu'elle a publié une petite vidéo, donc tête nue, dans le métro et qu'elle a publié sur les réseaux sociaux. Elle a été condamnée à 17 ans de prison pour incitation à la prostitution. Voilà. Donc, évidemment, qu'Amnesty réclame sa libération immédiate. Donc, j'ai plus son prénom en tête, mais enfin, vous pouvez très facilement le trouver. Si je peux vous le retrouver sur le document que j'ai pas loin, là. Elle s'appelle Yazaman Ariani. Voilà. Donc, elle est en prison et elle doit sortir dans les meilleurs délais de cette prison parce qu'elle n'a strictement rien à y faire. Voilà. Donc, on va peut-être passer un petit peu de musique et se retrouver effectivement juste après.
Tout à fait. C'est quoi la musique ?
Heureusement, je n'ai pas d'enfant, se dit Yana très souvent. Ce serait encore plus dur, encore plus humiliant. Et puis, comment elle aurait fait avec un bébé comme pactage ? Est-ce qu'il aurait survécu après tout ce voyage ? Yana a fui les bombes, la guerre dans son pays. Elle sait qu'elle avait peur, mais ne sait plus de quels ennemis. Entre les tirs de son président, des rebelles, de l'Occident, de Daesh et des Kurdes, elle ne sait plus d'où vient le vent. Elle ne sait plus d'où vient la poudre qui a rasé son village. Elle ne sait plus qui tire les balles qui ont éteint tous ses visages. Elle sait juste que l'homme est fou et que c'est là-bas en Syrie que s'est formé petit à petit l'épicentre de sa folie. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard, j'ai croisé Yana au feu rouge. Après 3 mois de périple dans toutes sortes d'embarcations, elle a souvent cru que la mort serait la seule destination. Comme lors de cette nuit noire au milieu de la mer Égée, dépassée par les vagues sur un bateau bien trop léger. Entre les centres de rétention et les passeurs les plus cruels, Yana a perdu de vue tous ceux qui avaient fui avec elle. Elle s'est retrouvée seule avec la peur, le ventre vide et des inconnus aussi perdus qu'elle comme seul guide. Marchant pendant des semaines puis payant à des vautours le droit de se cacher à l'arrière des camions sans voir le jour. Après ces mois d'enfer, elle passe ses nuits sur un carton. Son Eldorado se situe porte de la chapelle, sous un pont. Yana pense à tout ça en s'approchant de ma vitre. Moi je lui dis non avec la main et je redémarre bien vite. J'avais peut-être un peu de monnaie, mais je suis pressé, faut que je bouge. Je me rappelle de son regard. J'ai croisé Yana au feu rouge. Dans ces nuits, les cauchemars d'expulsion sont réguliers. Elle attend d'obtenir le statut de réfugiée. Elle mendie au feu rouge avec la détresse comme baillon. Elle se renseigne sur ses droits, petite princesse en haillons. Elle imagine parfois sa vie d'étudiante dans son pays. Si la justice avait des yeux, si la paix régnait en Syrie. Elle sourit même parfois quand elle trouve la force d'y penser. Elle rêve en syrien, mais là elle pleure en français. J'aperçois Yana rapidement lorsque le feu passe au vert. J'ai un petit pincement au cœur, mais je suis en retard et j'accélère. Les plus grands drames sont sous nos yeux, mais on est pressé, faut qu'on bouge. Il y a des humains derrière les regards. J'ai croisé Yana au feu rouge.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Évreux pour la suite de son émission. Et donc on vient d'entendre un morceau qu'on vous a passé plusieurs fois cette année, mais qui est important d'écouter, de Grand Corps Malade, qui s'appelle Au Feu Rouge et qui parlait bien sûr de réfugiés. Et c'est Mina qui va vous parler de la suite de l'émission.
Oui, des actualités dans notre chronique qui a changé de look. Et là, ça se passe sur Internet. Le Bitcoin, moi j'aime bien dire le Bitcoin, même si on ne dit pas le Bitcoin, quand le Bitcoin fait tomber des pédophiles. Ils se croyaient anonymes et leur acte intraçable, c'est tout le contraire qui s'est produit. 337 personnes ont été arrêtées et inculpées par les fédéraux américains pour avoir visité le site internet Welcome to Video. Première inculpée, Jung Woo Swan, exploitant de ce site qui publiait des vidéos d'abus sexuels sur enfants. Ce Sud-Coréen de 23 ans avait déjà été condamné dans son pays d'origine pour des actes similaires. Pour accéder au contenu illicite, les visionneurs de vidéos pédopornographiques devait utiliser des bitcoins. Cette crypto-monnaie est notamment utilisée sur Internet pour effectuer des transactions sans avoir à recourir à une monnaie légale. Un moyen, pensait-il, d'être à l'abri de toute poursuite. En effet, les bitcoins, dans l'imaginaire collectif, assurent l'anonymat là où une carte bancaire aurait immédiatement dévoilé leur identité. Mais le bitcoin ne permet pas de se cacher, il requiert simplement plus de moyens pour remonter à la source. C'est précisément en utilisant des techniques de surveillance du Bitcoin que les enquêteurs ont pu localiser le serveur en Corée du Sud et découvrir plus d'un million d'adresses liées à Welcome to Video. Selon le ministère de la Justice, ce site est le premier du genre à monétiser des vidéos d'exploitation d'enfants à l'aide de Bitcoin. Voilà pour la première actualité. Elle me dit des choses, Sabine, tu ne peux pas répéter.
Tu bloques sur quoi?
Du tout.
Elle a fait des plaisanteries de mauvais goût, c'est ça?
Oui.
Elle a fait des plaisanteries de mauvais goût.
Elles sont vraiment terribles, mais...
Ah oui, oui.
Tu le mets à l'anglaise.
Je continue avec une deuxième actualité. Donc là, c'est en France, la loi Bourguignon, un espoir déçu. Chaque année, environ 150 000 jeunes sont confiés par les juges au service de l'aide sociale à l'enfance des départements. Ces derniers ont l'obligation légale de les prendre en charge dans des maisons d'enfants ou des familles d'accueil jusqu'à leurs 18 ans. Après leur majorité, leur sort dépend du bon vouloir des départements. Fruit d'une longue mobilisation d'anciens enfants placés, la proposition de la loi de la députée Brigitte Bourguignon visait à rendre obligatoire l'accompagnement par les départements de tous les enfants placés à l'ASE, au moins jusqu'à leurs 21 ans, avec le soutien financier de l'État. Or, un amendement de la majorité modifiant profondément l'article 1er a réduit la portée protectrice du projet de loi présenté devant l'Assemblée nationale le 7 mai dernier. Plutôt que de systématiser l'accompagnement des jeunes majeurs qui en ont besoin, un contrat d'accès à l'autonomie est créé, auquel seuls les jeunes ayant été confiés pendant au moins un an et demi entre 16 et 18 ans peuvent avoir accès. Une mesure qui risque d'exclure en premier lieu les mineurs non accompagnés, représentant 69% des jeunes placés après 16 ans. Mais aussi, entre guillemets, tous les jeunes en situation de détresse familiale qui n'osent parler qu'à 16 ans, comme les victimes de viol, souligne Chantal Tabourin, animatrice du collectif Jeunes isolés étrangers du Loiret, où le contrat jeune majeur a été suspendu dès 2014. Donc, encore de mauvaises nouvelles sur l'avancée des droits des enfants, des jeunes, des mineurs isolés et des droits humains. Donc, il faut continuer à se battre pour que ça ne continue pas.
Il y a du boulot.
Il y a du boulot, comme dit Samine.
Non, mais ça... c'est moyennement rigolo parce que ça passe inaperçu avec le gouvernement. Mais il faut un travail de sape. Vraiment un travail de sape sur les droits humains. Il faut vraiment être présent pour le dénoncer. Il s'attaque à beaucoup de choses et ça fait réagir la majorité des gens quand il s'attaque à des énormités comme les retraites et tout ça, mais ils s'attaquent à beaucoup de droits fondamentaux. Et il y a vraiment un travail de sape qui est mené en plus un peu en
souterrain.
En
catimini.
Sans vraiment dire ce qu'ils font.
Et ça passe à la
soi-disant, voilà, peut-être pour gagner des lois au niveau électoral, peut-être. On ne sait pas s'ils font un tel calcul, mais sans doute. Mais c'est vraiment à dénoncer.
Non, mais ce qui me faisait sourire tout à l'heure, c'était quand Sabine a dit « il y a du boulot », c'était en même temps la tête qu'elle faisait. Parce que d'avant, oui, évidemment, pour les auditeurs ne peuvent pas la voir, mais c'est vrai qu'elle avait un air tellement, entre guillemets, fatigué en disant ça, il y a du boulot. Donc voilà, oui. C'était ça qui était un peu drôle. C'était pas le contenu de ce qu'avait dit Mila juste avant, bien sûr.
Et si, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de situations d'urgence qu'on met un an à traiter quand même.
Oui, oui.
Bah,
oui.
Donc les situations d'urgence auxquelles on ne répond pas, ça donne une image quand même de ce pays qui est en train de pas aller très bien quand même.
Oui, mais enfin les images des pays, malheureusement, il n'y a pas que la France dont l'image se dégrade, non, c'est général.
Jusque-là, on faisait tout pour aller mieux, pour faire en sorte de répondre et d'être présent, et puis de... surtout que c'est des enfants quand même, encore une fois, des mineurs.
Oui, oui,
aujourd'hui,
oui,
les mineurs, qu'ils soient mineurs ou majeurs, il n'y a plus de... On a l'impression qu'il n'y a aucune différence.
Oui, oui.
Il n'y a plus cette protection qu'on avait par rapport à l'enfance.
Donc. Voilà. Mais en parlant de « il y a du boulot », je crois qu'il y avait un petit peu de boulot aussi pour la suite de l'émission, justement, Sabine.
Alors, en Chine, c'est différent. On part en Chine, il y a une application qui flique les smartphones. Donc, ça a été lancé en janvier dernier par le Parti populaire chinois, l'application Xuexi Qianguo.
Elle ne parle pas encore le chinois couramment.
C'est du mandarin. C'est du mandarin.
Oh, purée.
Faut que j'aille faire un tour.
D'accord.
Qui veut dire étudie Xi pour rendre le pays plus fort. Et ça a déjà été téléchargé plus de 100 millions de fois. Le principe, c'est de gagner des points et des cadeaux en répondant à des quiz sur le président chinois ou encore en s'abreuvant d'articles et de vidéos sur les pensées de Xi Jinping. L'appli ne sert pas uniquement à la propagande du régime, mais également à espionner ses utilisateurs. Pour jouer, il faut fournir pléthore de données personnelles. Et une fois installé, Xuexi Quango permet de détecter dans le smartphone quelles autres applications ont été téléchargées. En gros, c'est un petit espion.
Hein.
Et donc aujourd'hui, l'appli est un outil de contrôle et de levier de chantage. En septembre, 10 000 journalistes ont été invités à l'utiliser, au moins une fois par an, pour effectuer des tests de loyauté. Pas de tests, pas de carte de presse. Donc ça va quand même loin. Et une façon de rendre cette application incontournable pour se faire bien voir du régime. Donc voilà, l'espionnage d'une manière complètement délibérée. Allez hop. Par l'intermédiaire d'une application. Donc la presse, elle n'est pas prête à museler. Hein, en Chine.
Bah d'abord, c'est pas dur. Hein. Cyber, résistance, répression. Voilà.
Tu peux répéter
Cyber, résistance, répression.
Bon.
Le
d'accord.
Petit dossier de ce mois-ci de la chronique d'Amnesty.
On vous rappelle que la chronique, c'est le mensuel d'Amnesty. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le formulaire d'abonnement sur le site internet amnesty.fr. Bien, moi je vais revenir à ce qui est l'actualité toute récente. C'est bon, ce qui s'est passé à la COP25, on en est par rapport au dérèglement climatique. Sous l'angle dérèglement climatique et atteinte aux droits humains, dont on vous a déjà parlé dans les émissions. Donc, on est arrivé à la COP25 et bon, on a appris là, que la COP25 s'était séparée sans qu'il ne soit rien décidé qui allait dans le bon sens. Donc, voilà, c'est à la fois désespérant sur la bêtise des gens qui sont responsables de l'évolution climatique et qui ne font rien, les États, les entreprises, enfin, etc. Puis en même temps, ça ne doit que nous inciter à continuer à nous mobiliser. Donc, quelques rappels, hein, le dérèglement climatique est une crise qui touche les droits fondamentaux à l'échelle mondiale. Il a des conséquences pour le droit à la vie, à la santé, au logement, à l'eau, à l'assainissement et pour bien d'autres droits. Il touche de manière disproportionnée les personnes et les groupes marginalisés ou soumis aux inégalités. De ce fait, des millions d'êtres humains souffrent déjà des effets catastrophiques de phénomènes climatiques exacerbés par le dérèglement climatique. Donc, les populations, y compris des adolescents, se mobilisent pourtant depuis longtemps et de manière croissante pour réclamer la justice climatique. mais les réponses n'ont pour l'instant pas été à la hauteur du problème. C'est aux États d'agir. Ils doivent notamment abandonner progressivement les énergies fossiles et veiller à ce que cela se passe de manière équitable pour toutes et tous et que cette transition soit réellement juste. L'un des obstacles à la lutte pour la justice climatique est l'hostilité et la violence auxquelles se heurtent les défenseurs des droits humains qui protègent leurs terres, leurs territoires et l'environnement. Parfois, les violences peuvent être le fait de forces de sécurité de l'État ou d'agents de sécurité privés agissant pour le compte d'intérêts privés. À cela s'ajoute, dans la majorité des pays du globe, la multiplication des obstacles à l'exercice des droits à la liberté de réunion et d'association et la répression de plus en plus forte des manifestations. On le constate aussi en France. Dans ce contexte, il peut être risqué de manifester pour demander que des mesures soient prises contre le dérèglement climatique et participer aux grèves mondiales pour le climat. Ainsi, en octobre 2019, au Royaume-Uni, des manifestants ont été arrêtés en masse et les manifestations ont été interdites, ce qui a fini par mettre un point d'arrêt au rassemblement de Londres. À Paris, la marche pour le climat du 21 septembre a été entravée par l'utilisation massive de gaz lacrymogène contre des manifestants largement pacifiques, au point que Greenpeace France a dû se résoudre à appeler les participants à quitter les lieux. La grande majorité des États, en particulier les pays riches et industrialisés, qui ont la capacité et la responsabilité d'agir au plus vite, ne se fixent pas d'objectifs suffisamment ambitieux. Les émissions de CO2 générées par les combustibles fossiles continuent d'augmenter et ont atteint un nouveau record en 2018. On n'est plus en 1900. Donc voilà, je vais vous lire simplement la fin du communiqué d'Amnesty, qui continue à demander aux États de revoir à la hausse les ambitions en matière d'action climatique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, de faire en sorte qu'un mécanisme ferme soit mis en place pour apporter soutien et recours aux personnes dont les droits humains sont affectés par la crise climatique, de convenir de règles de coopération visant à réduire les émissions tout en respectant les droits humains, d'améliorer les initiatives afin que les politiques climatiques internationales intègrent pleinement l'égalité des genres et remédient aux discriminations croisées. Et Amnesty demande aux pays industrialisés, donc plus particulièrement à la France, d'adopter des objectifs de réduction d'émissions visant à diviser par deux leurs émissions bien avant 2030 et parvenir à un stade de zéro émission avant l'horizon 2030 ou dès que possible après cette échéance, d'augmenter sensiblement le financement et le soutien à des initiatives climatiques respectueuses des droits fondamentaux, notamment en matière de transfert de technologies, dans des pays moins riches, incapables de prendre seuls des mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique, et de fournir aux personnes dont les droits ont été affectés par le changement climatique les moyens et le soutien nécessaires, ainsi que l'accès à des recours juridiques, y compris une indemnisation, en particulier dans les pays moins riches. On rappelle aussi, en lien avec ces fameux 10 jours pour signer dont vous parlez au début, qu'il y a deux cas dans les 10 jours qui figurent dans cette optique-là. Un cas d'une communauté autonome au Canada, victime d'une très large pollution due à une pollution par le mercure, et un autre cas aux Philippines, une communauté dont l'habitat a été dévasté par un des derniers cyclones et qui n'a toujours pas obtenu des solutions de relogement suffisantes et, disons, dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, il y a quand même une bonne nouvelle dans cet aspect d'évolution droits humains et évolution du climat, qui n'a pas fait la ligne de l'actualité, c'est paru pourtant le 12 décembre, c'est qu'aux Philippines, il y a la Commission des droits humains qui a annoncé que 47 entreprises, donc aux Philippines, exploitant les énergies fossiles, pourraient être amenées à répondre de violations des droits des citoyens des pays pour des dommages causés par le dérèglement climatique. Et Amnesty dit, il s'agit de la toute première fois qu'un organe de protection des droits humains statue que les entreprises exploitant les énergies fossiles peuvent être considérées comme légalement responsables des atteintes aux droits humains liées à ce dérèglement. Alors bien sûr, pour l'instant, il s'agit d'une décision de principe qui n'a pas d'action encore concrète, mais c'est une première avancée. Et c'est vrai qu'Amnesty travaille actuellement à étudier des solutions qui seraient de l'ordre d'inculper au niveau de la justice internationale les États et les différentes multinationales qui sont responsables principalement de ce dérèglement climatique, donc de les inculper de crimes d'écocide, qui n'est pas encore légalement défini, mais de crimes d'écocide qui seraient un pendant aux crimes contre l'humanité.
Voilà sur quoi on a commencé à travailler, mais c'est un travail de longue haleine. Et malheureusement, le temps manque pour avoir tout le temps disponible pour que les choses changent rapidement.
Ouais, mais j'ai des chiffres inquiétants. Si personne ne bouge, le changement climatique causera 250 000 morts par an à partir de 2030. 1 milliard de personnes verront leurs ressources en eau diminuer drastiquement. 600 millions de personnes seront exposées à la faim d'ici à 2080. 330 millions de personnes seront déplacées en raison d'inondations. Voilà, c'était pour finir, pour compléter ton discours.
Ben, je ne sais pas si vous avez regardé les infos là, hier, mais en Afrique du Sud, il y a des régions où, ça y est, ils sont déjà privés d'eau. Oui. Et les chutes Victoria
sont presque à sec.
Ouais. C'est ouais. quand même inimaginable il y a encore quelques années.
45 millions de populations des pays limitrophes de ces chutes, effectivement, sont déjà en situation de détresse alimentaire. Je pense que les phénomènes migratoires ne sont pas prêts de s'arrêter.
Non. Alors, tiens, si on se mobilisait aux frontières pour les exilés.
Ben voilà.
Donc, il y a eu un mouvement qui a eu lieu il y a quelques jours, mais dont je veux vous parler, parce que, en fait, c'était après notre dernière émission. Donc, voilà. Ça s'est passé en France. Et donc, il y a eu une mobilisation générale dans plein d'endroits en France, justement, au moment où les sirènes des pompiers retentissent partout en France, comme autant de symboles de nos alertes. Des centaines de personnes se sont rassemblées aux frontières en signe de soutien aux exilés. Donc, c'était le 4 décembre. Des mobilisations ont eu lieu dans plusieurs villes frontières afin d'appeler les députés à l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire pour que soient respectés les droits fondamentaux des personnes migrantes et réfugiées aux frontières intérieures. Donc, à Briançon, à Calais, à Dunkerque, à Hendaye, à Menton, mais aussi à Londres, devant l'ambassade de France, partout sur les territoires frontaliers, des dizaines d'associations agissant en soutien aux personnes exilées se sont jointes à cet appel. De Grande-Synthe à Menton, en passant par la vallée de la Roya et par Hendaye, les frontières françaises sont les lieux d'atteinte inacceptable aux droits fondamentaux des personnes exilées. Absence de tout dispositif sanitaire et social, destruction d'abris, obstacle à la demande d'asile, non-protection des mineurs isolés, refoulement systématique, comportement brutaux, harcèlement des personnes qui, par solidarité, tentent d'apporter une aide aux exilés. La liste d'atteintes aux droits humains est longue, et c'est en France. Malgré les dizaines de rapports venant d'autorités publiques indépendantes et d'organisations non gouvernementales qui documentent ces violations, le gouvernement reste sourd à ces alertes. Pourtant, la protection des droits et libertés fondamentales de toute personne constitue un impératif commun sur lequel nous ne pouvons transiger et dont nous appelons la représentation nationale à s'emparer. Donc nous nous adressons aux députés pour demander la création d'une commission d'enquête parlementaire afin de procéder à des investigations aux frontières et surtout de proposer des mesures pour que les droits des personnes migrantes et réfugiées soient enfin respectés. Parce qu'en France, il y a des zones de non-droit. Les constats sont alarmants. L'état de santé physique et ou psychologique de ces personnes est dramatique. Que ce soit comme à la frontière italienne en raison de leurs arrestations, refoulements et privations de liberté dans des conditions indignes ou en raison du harcèlement et de la destruction de leurs abris, notamment à la frontière britannique. Rares sont les obligations prévues par la loi française et le droit international qui sont respectées aux frontières italiennes et espagnoles. Les personnes ne sont pas informées de leurs droits, ne peuvent pas demander l'asile et certaines sont même détenues pendant des heures sans fondement légal. Ces frontières sont devenues des zones de non-droit, à l'image du lieu d'enfermement situé à Menton, où même des élus de la République se sont vus refuser l'accès en octobre et novembre dernier. Sur le littoral nord, les personnes exilées se font expulser de leur campement précaire sans solution digne d'hébergement. Tous les jours, les acteurs de terrain recueillent des témoignages de mineurs isolés. Leur minorité est rarement prise en compte par les forces de l'ordre aux frontières, qui les refoulent au mépris des lois françaises et des conventions internationales, aggravant leur précarité et leur traumatisme. Une fois sur le territoire, leur situation n'est pas meilleure, comme le dénoncent les associations de terrain, notamment à Calais ou à Grande-Synthe, où des jeunes survivent en attendant d'essayer d'aller au Royaume-Uni. On n'est pas en Grèce, mais on est en France, et il y a quand même encore des jeunes qui sont dans des situations aussi dramatiques. Face au manquement de l'État, de nombreux citoyens, des collectifs, des associations s'organisent pour venir en aide aux personnes exilées. Mais au lieu de voir leur mission encouragée, ils doivent faire face à des pratiques d'intimidation, de harcèlement, des poursuites et dans certains cas à des condamnations en justice. Le droit international est pourtant très clair. Aider des personnes réfugiées et migrantes, ce n'est pas une infraction et aucune poursuite pénale ne devrait avoir lieu. Donc voilà, je vous invite à interpeller notre cher président de la République, Emmanuel Macron, par rapport à tout ce qui se passe et interpeller les députés par rapport à ce qui se passe en France, par rapport à l'accueil des réfugiés. Je n'ai pas prévu de parler d'Evreux aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de nombreux demandeurs d'asile qui n'ont toujours pas de place en CADA, et c'est dramatique, parce que comme il n'y a pas assez de places d'accueil, eh bien ces personnes vont engorger le 115, et ça n'améliore pas la situation des personnes accueillies en urgence, notamment à la Mala. Voilà. Et j'en parlerai pas aujourd'hui, mais ça va toujours pas mieux quand même. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est pas la responsabilité des personnes qui gèrent ces organismes, c'est la responsabilité de l'État qui ne prévoit pas assez de places pour accueillir les réfugiés dans des conditions dignes et oui. humaines.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. C'est parce qu'il n'y a pas les moyens qui sont mis en face des besoins. Voilà, on passe quand même quelques minutes de musique et on se retrouve juste après.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us on the sky.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International Evreux. On vient d'entendre une reprise d'une chanson de John Lennon que tout le monde connaît, mais comme c'est bientôt Noël, je pensais que c'était circonstance. La chanson, du coup, j'ai même oublié.
Imagine.
Imagine, merci Nina. Et c'est une reprise faite par Avril Lavigne sur un CD en soutien à Amnesty International. Voilà.
Imagine, le jour de Noël, tout le monde sera à l'abri et au chaud. Oh,
oui,
partout.
C'est ça.
Même à Évreux.
Non, mais c'est dans cette chanson, le texte en anglais, c'est ce qu'il dit. Il dit, imagine un monde de paix, imagine, enfin, etc., etc. Et il dit, le refrain, c'est, vous croyez que c'est impossible, mais finalement, peut-être que ça ne l'est pas. Je traduis approximativement, mais c'est ça. Mina,
tu voulais nous parler. Alors, une actualité pas du tout imaginaire. Malheureusement, on aimerait bien, mais non. Ce n'est pas une fiction, et le monde n'est pas encore totalement en paix. Au Bangladesh, sans sommation. Échange de tirs, voilà l'explication donnée par la police bangladaise pour justifier l'homicide de deux hommes Rohingyas le 24 août dernier. Officiellement, ils étaient soupçonnés d'avoir joué un rôle dans le meurtre d'un dirigeant politique local. Pourtant, aucune mesure judiciaire et juridique n'avait été prise à leur encontre dans le but de les arrêter avant qu'ils ne soient abattus. Trois jours après, c'est à nouveau lors d'un supposé échange de tirs qu'un homme Rohingya est tué à son tour. Cette justification sera avancée le 1er septembre, ainsi que le 13 septembre et encore le 15 septembre. Au total, 7 hommes habitant dans des camps de réfugiés sont morts suite à un échange de tirs en l'espace d'un mois. Autant d'homicides qui ressemblent bel et bien à des exécutions extrajudiciaires. Au Bangladesh, où près d'1 million de Rohingyas ayant fui le Myanmar vit dans des camps surpeuplés, ces réfugiés, comme les ONG qui leur viennent en aide, font de plus en plus l'objet de brimades, couvre-feu imposé dans les camps, confiscation de téléphones portables, blocage des réseaux mobiles. 41 ONG ont même perdu l'autorisation de mener leurs activités dans les camps. Des mesures de rétorsion prises par le gouvernement à la suite du grand rassemblement du 25 août. Organisé par des Rohingyas, ils commémoraient le jour du génocide dont leur communauté a été victime au Myanmar. La mémoire, elle, ne peut être exécutée, elle est à l'épreuve des balles.
C'est une belle phrase pour finir quand même, après tout.
C'est pas moi qui l'ai écrite, mais c'est vrai qu'elle est belle.
Et je crois que c'était Sabine qui voulait prendre la suite de la voix de Mina.
Alors, on part en Russie, donc avec Lulia Tchekova, qui est une militante féministe, qui a été condamnée à une lourde amende le 11 décembre, donc c'est pas vieux, pour propagande gay. Et elle est visée par des poursuites pour pornographie. Une nouvelle fois, une militante des droits humains paye le prix fort, dans tous les sens du terme, simplement pour avoir diffusé les idéaux de non-exclusion, de tolérance et d'autonomisation des femmes. Lulia Tchekova est la dernière cible d'une campagne discriminatoire au fort relent d'homophobie. Elle subit une querelle d'atteinte et a été détenue de manière arbitraire, interrogée et intimidée à de multiples reprises. Actuellement, elle est placée en résidence surveillée et fait l'objet de poursuites pénales pour pornographie, une infraction qui est passible d'une peine allant jusqu'à 6 ans de prison. Les autorités doivent abandonner toutes ces charges. Elle n'a rien fait d'autre que de se mobiliser en faveur des droits humains. Elle est originaire de l'extrême-orient russe et a été déclarée coupable de propagande en faveur de relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs. Une infraction administrative est condamnée à une amende de 50 000 roubles parce qu'elle gère 2 communautés en ligne sur les thèmes LGBTI. Les 2 communautés sont signalées étant majeures, plus de 18 ans, comme l'exige le droit russe et l'amende qui lui a été infligée au titre de la loi russe contre la propagande homosexuelle n'a donc aucun fondement. La militante fait toujours l'objet d'inculpations pénales pour pornographie, placée en résidence surveillée depuis le 23 novembre, après avoir été inculpée de production et diffusion de matériaux pornographiques en raison de dessins de vagins qu'elle a publié sur des réseaux sociaux et de photos, enfin de montage artistique. Et en mars, Lulia a dû abandonner son travail au sein de la compagnie théâtre amateur Merak, la police ayant ouvert une enquête pour propagande homosexuelle, également liée à sa pièce Bleu et Rose, qui dénonce le harcèlement et la discrimination. La compagnie a été contrainte de cesser ses activités. Voilà, voilà, voilà.
Oui. Donc, encore une fois, la liberté et le respect des droits est toujours assimilé à propagande,
pornographie,
conspiration, incitation à la débauche et je ne sais quoi d'autre. Alors que ceux qui s'y livrent vraiment à cette incitation à la débauche, par exemple, ou de pornographie ou de pédophilie, en général, enfin, il y en a pas mal qui arrivent à passer à travers les mailles du filet, dirons-nous.
C'est étrange. Qui sont bien placés, voilà. Souvent.
Voilà. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas lutter par rapport à ces gens-là. Et bien sûr, on demande à ce que les poursuites entamées contre elles soient levées en collaboration avec Amnesty, enfin les bureaux de Moscou d'Amnesty, Amnesty Russie. Voilà. On s'approche tout doucement du terme de l'émission. Enfin, il nous reste quand même quelques minutes. Je vais en profiter pour... je sais pas, vous avez d'autres... Moi, j'ai une autre information à donner, mais je ne sais pas si parmi vous, mesdames, vous aviez autre chose que vous vouliez dire dans le temps qui nous reste.
Bah, du coup, je vais faire ma petite rubrique culturelle.
Bah oui.
Je l'avais gardée sur le coude. Le 15 janvier sort un documentaire cinématographique qui s'appelle System K. Alors, dans ce documentaire... Renaud Barré dépeint la capitale de la RDC, République démocratique du Congo, comme un musée à ciel ouvert. À Kinshasa, l'art n'est ni dans les musées ni dans les galeries, il est dans la rue. À raison, car c'est sur les grands axes qui traversent la capitale congolaise, dans ces dédales de ruelles et ces marchés à ciel ouvert, que vivent les Kinois jour et nuit. C'est donc là que les artistes congolais montrent leur travail. Pour les vendeurs ambulants, les mototaxis, les enfants qui déambulent. Pour les prêcheurs en tout genre, les porteurs d'eau, les anciens somnolents sur une chaise en plastique, Renaud Barré, le réalisateur du Système K, et Jules Lahana, son monteur, naviguent entre Freddy, assembleur de machettes pour en faire une maison, Benny qui brûle du plastique pour fabriquer des sculptures, et Géraldine, peintre de toile avec de la fumée. Ceux-là exposent leur travail. D'autres performent. Congo, astronaute, sillonne les rues revêtues d'une combinaison spatiale de sa fabrication, tandis que Strombo Kayumba, la nuit venue, incarne le diable dans l'espace public à l'aide de deux grandes cornes fixées sur sa tête. Performance, c'est le maître mot. Attirer le regard des passants pour les questionner, les pousser à réfléchir, à se positionner, les bousculer, avec en creux la situation politique et sociale de la République démocratique du Congo. Le pillage des ressources naturelles par les multinationales, la corruption des politiciens, les civils pris pour cible contre eux dans les conflits interethniques, l'emprise des églises évangélistes sur les comportements sont la matière première travaillée par ces artistes. Malgré la dureté des sujets abordés, Système K leur rend un hommage inspirant, tout en poésie et en rythme cadencé. Donc ça sort le 15 janvier. Système K de Renaud Barré.
Et est-ce que ça va passer à Ivrou?
Je ne sais pas. Dans la chronique d'Amnesty, ils ne me disent pas.
Ah, la chronique d'Amnesty n'est pas bien informée. moi, je voulais vous donner une information que j'ai récupérée aussi sur le site d'Amnesty, qui est toute récente, qui date du 12 décembre. Vous savez qu'on fait campagne depuis plusieurs mois maintenant contre les ventes d'armes de la France vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, dont on a les preuves qu'elles sont utilisées pour commettre des, en appui aux forces saoudiennes, de l'armée saoudienne, pour commettre des crimes de guerre au Yémen. Mmh. On a les preuves, hein, il ne s'agit pas d'une hypothèse, mais d'une réalité. Et là, Amnesty International, alors il s'agit bien sûr du secrétariat international à Paris qui fait cette action, il a décidé de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'en fait, Amnesty vient d'entamer une action avec quatre autres ONG, en demandant à la Cour pénale internationale d'inculper différents dirigeants d'entreprises françaises fabriquant des armes. Le dossier a été déposé donc là il y a deux jours ou trois jours. C'est une communication de 300 pages comprenant des éléments de preuve, donc déposés sur le bureau de la procureure de la Cour pénale internationale. Et l'objectif, c'est de savoir si la responsabilité pénale de hauts dirigeants d'entreprises et de gouvernements européens, suivez mon regard, peut être engagé en ce qui concerne la fourniture d'armes utilisées par des membres de la coalition, donc menée par l'Arabie Saoudite, pour commettre des possibles crimes de guerre au Yémen.
Il s'agit plus précisément de 26 frappes aériennes qui ont illégalement tué ou blessé des civils et détruit ou endommagé des écoles, des hôpitaux et d'autres biens protégés. Donc voilà, alors pour, je ne vais pas vous lire tout le communiqué, mais on peut vous citer quand même les entreprises qui sont dans le viseur donc, de ce dépôt de plainte. Parce que là, effectivement, c'est entre guillemets, on passe à la vitesse supérieure. Et les dirigeants des pays aussi concernés, principalement enfin, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, et j'en oublie un autre, l'Italie, voilà, seront, si la plainte suit son cours, eux-mêmes aussi possiblement inquiétés. Mais les entreprises sont les suivantes, Airbus Défense en Espagne, Airbus Défense aussi en Allemagne, BAE Systèmes au Royaume-Uni, Dassault en France, Leonardo en Italie, MDA UK Limited, excusez-moi, au Royaume-Uni, la même chose de MDA en France, Rayon Systems au Royaume-Uni, Rheinmetall en Allemagne, et la filiale RWM Italia en Italie et Thales France. Voilà, donc le dossier a été déposé le 12, il y a donc très peu de temps, et il est signé conjointement par Amnesty International, Mwabata for Human Rights, je suis arrivé à le dire, Campaign Against Arms Trade, le centre d'Elas et Rete Disarmo, je pense que les deux derniers, c'est en Espagne et en Italie. Donc voilà. Donc voilà, on va essayer que la Cour pénale internationale, dont je rappelle qu'elle a été créée pour statuer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, arrive à inculper les États et les entreprises. Voilà. Non ?
Plus d'informations. Moi, je vous dis joyeux Noël.
Simina. Joyeux Noël, c'est ça ?
Et je vous dis à la prochaine fois.
D'accord. Bah, du coup, on va pouvoir rendre l'antenne. Je crois que c'est la première fois avec un petit peu d'avance au laboratoire qui vient d'arriver. Donc voilà, il aura tout le temps de s'installer. On vous donne quand même des informations locales, on en a quelques-unes. Donc on se retrouve sur l'antenne de Principe Actif. Non, mais ça ne va pas être long. Sur l'antenne.
En fait, on va presque le rendre à l'heure.
Non, mais si.
Vas-y, continue. Alors, prochaine émission, le 31 décembre.
Non, Mina, c'est pas ça. Prochaine émission de radio le 31 décembre, oui, tout à fait. Puis on se retrouve aussi sur l'antenne de Principe Actif le 14 janvier pour la reprise des émissions en 2020. Et on vous dit aussi qu'on se retrouve pour la fête de la soupe le vendredi 31 janvier, au Cube avec nos amis du Tangram. Et déjà, de retenir votre date, c'est un peu plus loin dans le temps, mais de retenir votre samedi 22 février, puisqu'on aura une après-midi toujours au Cube de projection débat organisée par Amnesty International sur les violences faites aux femmes avec la projection d'un film qui s'appelle « 1000 Girls Like Me » et qui traite du combat tout à fait remarquable d'une femme afghane contre la violence faite aux femmes et qui a réussi à faire inculper et emprisonner son père qui l'avait violenté sexuellement pendant des années. Et voilà. Et donc, c'est un film tout à fait, que moi j'ai vu, qui est tout à fait poignant. Donc, on le projettera le samedi 22 février au Cube. Et l'entrée, bien sûr, de la projection débat sera gratuite.
Et demain, tu te rappelles ce que c'est demain, 18 décembre?
C'est la journée internationale des migrants.
Voilà.
Tout à fait.
Et donc, Principe Actif a interviewé des gens du CFED qui s'est passé à l'antenne ce matin, mais je pense que ça repassera à l'antenne demain sur la journée internationale des migrants. Voilà.
Tout à fait. Eh bien, donc, on rend l'antenne et on laisse la place au laboratoire. Bonne fête de Noël.
Et,
voilà, à tout le monde.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.